pas de croix, pas de couronne, par William Penn, chapitre X. Vous n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. 1 Jean 2, 15. N'aimez pas ce que le système du monde et les hommes ont inventé. Vêtements, sensations liées à la nourriture, sport, plaisir, jouets, gadgets, coutumes, traditions, divertissements, passe-temps, etc. Servez-vous des choses du monde comme si vous n'y étiez pas absorbé et avec indifférence. 1 Cor 7:31 Car tout ce qui est dans le monde, les désirs de la chair, les désirs des yeux et l'orgueil des possessions ne vient pas du Père, mais vient du monde. 1 Jean 2, 16 Car ce que ta chair et tes yeux désirent, et l'orgueil associé à leur acquisition, ne vient pas du Créateur, mais du système du monde, dirigé par le Dieu de ce monde, Satan. Tout ce que tu convoites est une idolâtrie. Le luxe, l'indulgence des plaisirs des sens combattus dans ce discours ne doit pas être toléré parmi les chrétiens, parce que tant ce qui l'invente, que ce qui s'en délecte et plaide si vivement pour lui, est incompatible avec le véritable esprit du christianisme, et la nature même du christianisme ne s'y accorde pas. L'immortalité et la vie éternelle ont été mises en lumière, afin que tous les plaisirs inventés de la vie mortelle, dans lesquels le monde vit, soient reniés et abandonnés. Et c'est pour cette raison que rien de moins que d'immenses récompenses et des demeures éternelles sont promises, afin que les hommes et les femmes soient ainsi encouragés à renoncer volontairement à la vanité et aux satisfactions charnelles du monde, et à affronter avec hardiesse la honte et les souffrances qu'ils doivent s'attendre à recevoir, peut-être de la main de leurs plus proches intimes et parents. Car si la religion chrétienne avait admis la possession de ce monde autrement que par l'usage simple et nul créature, donné par Dieu pour la nécessité et la commodité de toute la création, par exemple, si le christianisme permettait tout l'orgueil, la vanité, la curiosité, la pompe, le changement d'habit, les honneurs, les préférences, les modes et les divertissements habituels du monde, avec tout ce qui peut réjouir et gratifier les sens, alors à quoi bon une croix quotidienne, une vie de renoncement, travailler à son salut? À quoi bon craindre Dieu et l'attendre tout le long du jour, subir tous les reproches, les mépris, les mauvais traitements, les railleries amères et les morts cruelles? À quoi bon toutes ces choses? Et pourquoi faudrait-il s'attendre à ces choses, sacrifices et persécutions, pour atteindre cette glorieuse immortalité et cette couronne éternelle, si la vanité, l'orgueil, la dépense, l'oisiveté, la convoitise, l'envie, la malice et tout le genre de vie parmi les soi-disant chrétiens étaient permis par la vraie religion chrétienne? Aucune nécessité, assurément. Mais le Seigneur Jésus-Christ savait bien à quelle sauf futilité et vain plaisir, ainsi qu'une grossière impiété, l'esprit des hommes et des femmes était occupé, et combien il s'était éloigné du principe céleste de la vie pour se livrer à une recherche sensuelle et illégitime des jouissances de ce monde périssable, pire encore, inventant chaque jour de nouvelles satisfactions pour contenter les appétits charnels. Il prévit donc aussi la difficulté que tous auraient à les abandonner et à y renoncer à son appel, et avec quelle grande réticence il leur dirait adieu et s'ensevrerait. C'est pourquoi, pour les y amener, il ne leur parla pas dans le langage de la loi, leur promettant un Canaan terrestre, terre promise, de grandes dignités, de nombreux descendants, une longue vie, et autres choses semblables. Non, au contraire, tout en laissant ces choses suivre leur cours, il leur parle sur un ton plus élevé, à savoir, il leur assure un royaume et une couronne immortelle, que ni le temps, ni la cruauté, ni la mort, ni la tombe, ni l'enfer, avec tous ses instruments, ne pourront jamais leur ravir ou leur faire manquer, à ceux qui croiront en lui et lui obéiront. De plus, qu'ils seraient admis dans cette proche alliance d'amis aimants, oui, dans la relation divine intime de cher frère, et cohéritier avec lui de tout bonheur céleste et d'une glorieuse immortalité. Ainsi, s'il est écrit que ceux qui n'écoutaient pas Moïse devaient mourir, à plus forte raison ceux qui refusent d'entendre et d'obéir aux préceptes de ce grand et éternel rétributeur de tous ceux qui le cherchent avec diligence et le suivent. 2. Et c'est pourquoi il lui a plu de nous donner, par son propre exemple, un avant-goût de ce que ses disciples doivent s'attendre à boire jusqu'à la lie, à savoir, la coupe du renoncement à soi, des épreuves cruelles et des afflictions les plus amères. Il n'est pas venu consacrer un chemin vers le repos éternel à travers l'or et l'argent, les rubans, les dentelles, les estampes, les parfums, les vêtements coûteux, les ornements recherchés, les tenues irréprochables, les bijoux précieux, les récréations agréables, les pièces, les fêtes, les bals, les mascarades, les réjouissances, les romans, les chansons d'amour et autres passe-temps du monde, non, non, hélas. Mais en renonçant à toutes sortes de divertissements de ce genre, oui, et parfois même à des jouissances plus légitimes encore, et en supportant joyeusement, d'un côté, la perte de tout, et de l'autre, le reproche, la honte et les persécutions les plus cruelles de la part d'hommes impies. Ils n'auraient jamais manqué d'une telle variété de plaisirs mondains s'ils avaient convenu à la nature de son royaume, car il fut tenté, comme ses disciples le sont, par un appât qui n'était rien de moins que toutes les gloires du monde. Mais il leur commanda de chercher un autre pays et d'amasser des trésors dans les cieux qui ne se flétrissent pas, et c'est pourquoi il leur enjoignit de ne jamais se tourmenter de ce qu'ils mangeraient, boiraient ou mettraient, parce que, disait-il, ce sont les païens qui ne connaissent pas Dieu, qui recherchent ces choses, Matthieu 6, 19, 33, et aussi les chrétiens qui prétendent le connaître, mais ayant nourriture et vêtements qu'ils s'en contentent, 1 Tim 6, 6, 11, lui dis-je, qui commande à cette doctrine et donne à cet exemple saint et céleste. 3. Oh, qui le suivra, qui sera de véritables chrétiens? Nous ne devons pas penser diriger notre barque autrement, ni boire à une autre coupe que le chef de notre salut ne l'a faite avant nous, Hébreux 2, 10, et n'a insisté pour que nous fassions de même. Non, car c'est précisément la question qu'il posa autrefois à Jacques et Jean, fils de Zébédée, lorsqu'ils désiraient siéger à sa droite et à sa gauche dans son royaume. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, et être baptisé du baptême dont je suis baptisé? Matthieu 20, 22. Sinon, ils ne sont pas disciples, pas chrétiens. Quiconque veut venir à Christ et être un vrai chrétien doit abandonner promptement tout plaisir qui déroberait les affections de l'esprit et l'éloignerait du principe divin de vie, et rédiger librement un acte de divorce pour chaque vanité chérie, et tout ce qui est sous le soleil de justice est vanité en comparaison de lui. 4. Objection 1. Mais certains sont prêts à objecter, se servant de l'Écriture pour justifier leur convoitise, bien qu'elle soit mal appliquée. Le royaume de Dieu ne consiste ni dans la nourriture, ni dans la boisson, ni dans le vêtement, ni dans le refus de ces choses, selon leur position, etc. Réponse. C'est vrai, nous n'y attachons pas notre vie. Mais assurément, vous êtes ceux qui avez le moins de raison de nous opposer cela. Vous, qui faites de ces choses nourriture et vêtements des nécessités si indispensables à votre conduite, vous devriez avoir le moins de raison de vous plaindre de notre non-conformité, de notre refus de les poursuivre et d'en parler. Au contraire, notre rejet de leurs recherches dans notre conduite vous rend critiques envers nous, comme si nous étions odieux. Que le juste principe de vos propres consciences décide combien cela est chrétien ou conforme au christianisme, la justice, la paix et la joie où consiste le royaume céleste. Notre conduite se tient dans la tempérance, et celle-ci se tient dans la justice, par laquelle nous avons obtenu ce royaume, où votre latitude et votre excès n'ont ni part ni intérêt. Si donc nul ne peut être un vrai disciple, sinon ceux qui viennent porter la croix quotidienne, ceux qui suivent l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, Phil 3, 10, 1 Pierre 4, 13, Tite 2, 11, 13, Rome 6, 6, Galles 2, 25, 24, 6, 4, à travers son baptême, ses afflictions et ses tentations, et si nul n'est ainsi baptisé avec lui, sinon ceux dont l'esprit se retire des vanités dans lesquelles vit la généralité du monde, et devient obéissant à la sainte lumière et à la grâce divine dont. Ou comment la vie chrétienne serait-elle une affaire de difficultés et de reproches? Non, le scandale de la croix cesserait bientôt, elle qui est la puissance de Dieu pour ceux qui croient, Galles 5, 11, 1 Cor 1, 18, elle dompte toute convoitie et toute vanité, et par elle l'homme est amené à une sainte soumission d'esprit à la volonté céleste de son Créateur. Car c'est pour cela qu'il a été dit que Jésus-Christ a été et est manifesté, afin que par sa sainte vie de renoncement et par sa doctrine, et par l'immortalité qu'il a apportée et apporte chaque jour à la lumière, ils ternissent la gloire de leur repos et plaisir passager, 1 Cor 1, 27-29, afin que l'esprit sevré de ces choses et crucifié à leur égard, ils cherchent une autre patrie et obtiennent un héritage éternel. Car les choses qui se voient sont temporelles, 2 Cor 4, 18, et il fallait les racheter de s'y reposer, comme tous les vrais chrétiens le sont. Mais les choses qui ne se voient pas sont éternelles, ce sont celles-là les choses d'en haut auxquelles ils devaient, et auxquelles tous doivent être amenés, et sur lesquelles leurs affections doivent principalement se fixer. 5. Ainsi, un vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ doit avoir l'esprit si familier des choses célestes que les choses de ce monde puissent être utilisées comme si elles n'étaient pas, et qu'ayant ce qui est nécessaire et convenable, il s'en contente, sans superfluité mondaine 1 Tim 6, 8. Par là, le plaisir qu'en des temps d'ignorance on prenait aux coutumes et aux modes du monde peut être plus abondamment remplacé dans la vie cachée et céleste de Jésus. Car sans demeurer en Christ, il sera impossible de porter ce beaucoup de fruits, Jean 15, 4, 8, qu'il requiert de ses disciples, et par lequel son Père est glorifié. De même qu'il est clair que ceux qui vivent dans les vanités, les plaisirs, les divertissements et les convoitises du monde ne demeurent pas en lui, ne le connaissent pas, car ceux qui le connaissent se détournent de l'iniquité, de même leur attachement et leur délectation dans ces plaisirs envoûtants sont précisément la raison de leur ignorance et de leur insensibilité à son égard. Lui qui se tient continuellement à frapper à la porte de leur cœur, Apoc 3, 20, qu'il devrait demeurer, et dont ils devraient connaître la puissance divine comme est. Amen. Chapitre X vit ensuite ces coutumes et ces modes, qui composent l'habillement et la conduite ordinaire de l'époque, entravent éminemment le recueillement intérieur de l'esprit des gens, par lequel ils peuvent parvenir à contempler les gloires de l'immortalité. Au lieu de craindre leur Créateur au jour de leur jeunesse et de chercher le royaume Dieu comme première priorité de leur vie, Éclus 12, 1 Matthieu 6, 33, s'attendant à ce que s'ajoutent les autres choses nécessaires et convenables, Luc 12, 30, selon les injonctions de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, au contraire, dès qu'ils peuvent faire quoi que ce soit, ils s'attachent à l'orgueil, à la vanité, et à cette conduite qui plaît le plus à la chair, F2, 3, ce qui devient leur divertissement le plus délicieux. Toutes ces choses n'engendrent que des conceptions lubriques et attisent des pensées désordonnées, des propos immoraux, des comportements débauchés, sinon finalement des actions perverses. Pour de telles personnes, il est fastidieux et offensant qu'on parle du ciel ou d'une autre vie. Dites-leur de réfléchir à leurs actes, de ne pas attrister le Saint-Esprit, de considérer une condamnation éternelle, de se préparer au jugement, et la meilleure réponse ordinaire n'est que plaisanteries injurieuses, F5-3-4 et répliques profanes, si ce n'est des coups directs. Leurs pensées sont ailleurs, leurs matinées sont trop courtes pour se laver, se lisser, se farder, se coller des mouches, se tresser, se boucler, se gommer, se poudrer, et s'habiller et se parer de toute façon. Leurs après-midi sont tout aussi souvent consacrés aux visites et aux spectacles, où leur divertissement habituel consiste en des histoires tirées des romans les plus approuvés, quelques aventures étranges, quelques récits d'amour passionné, refus cruel, grand obstacle, sollicitations pressantes, déceptions misérables, surprises merveilleuses, rencontres inattendues, châteaux pris d'assaut, amants emprisonnés délivrés, et retrouvailles de prétendus morts, duels sanglants, voix faibles résonnant depuis des tombes solitaires, plaintes funèbres surprises, soupirs. Et tandis que toutes choses semblent au plus grand éloignement, alors les morts sont vivants, les ennemis deviennent amis, le désespoir se change en jouissance, et toutes leurs impossibilités se réconcilient, des choses qui n'ont jamais été, ne sont pas, et ne seront ni ne peuvent jamais être, arrivent toutes. Comme si les hommes et les femmes étaient trop lents à répondre aux suggestions licencieuses de la nature corrompue, ou comme s'ils étaient trop occupés de spéculations plus divines et d'affaires célestes, on leur fournit tout ce que les esprits les plus extravagants peuvent inventer, non seulement des mensonges flagrants, mais des impossibilités pour la nature même, exprès pour exciter leurs esprits à ces passions oiseuses et enivrer leurs imaginations étourdies de néants enflés et de fictions aériennes. Celles-ci non seulement consument leur temps, efféminent faiblesse chez les hommes et dépendance au plaisir leur nature, abaissent leur raison et les portent à en faire une réalité dans leur vie, faisant de chaque aventure la leur par imitation. Mais s'ils sont déçus, comme qui pourrait s'attendre à autre chose de pures imaginations, ils cherchent à tuer leur frustration par le vice qui domine chez eux. Et pourtant, ce sont là quelques-unes de leurs récréations les plus innocentes, qui sont les pièges même de Satan pour prendre les gens, visant leur faiblesse, et capturant illogiquement leurs affections par des divertissements qui sont les plus attirants pour leur convoitise charnelle. Ceci engendre la vanité dans leur cœur, et leurs yeux ne voient que ce qui s'accorde à leurs pensées lubriques, et leurs regards murmurent les inflammations secrètes de leurs esprits intempérants, Prov 7-21, errant si longtemps au dehors, jusqu'à ce que leurs actes lascifs ramènent la nuit à la maison, et chargent leurs esprits et leur réputation de convoitis et de qualités scandaleuses. L'interprétation moderne de ceci est les pièces, les films, la télévision, les DVD, les clips musicaux, tout cela crée les pires pensées et désirs d'immoralité sexuelle, qui constituent une grave dépravation de l'esprit. Non seulement leur contenu est sexuel, mais ils regorgent de grossièreté, sont souvent violents, font fréquemment la promotion des drogues et reflètent le plus bas niveau de la vie. Même les publicités sont pleines de sexe. Les couvertures de magazines au supermarché du quartier hurlent l'immoralité sexuelle et l'impudeur pendant que vous attendez aux caisses. Panneaux d'affichage, publicités sur les bus, sites web d'actualité, tous montrent des femmes à peine vêtues, flattant vos convoitises et nous désensibilisant aux péchés d'adultère, de fornication et d'homosexualité, qui ne servent qu'à nous faire bannir du ciel dans la vie à venir. Entretenir de telles pensées dans votre esprit est déjà suffisamment grave, mais ces pensées conduisent aussi à tomber dans les actes, qui non seulement vous endommagent davantage, mais endommagent aussi l'autre partie. 2. Voici le but de leurs modes et de leurs divertissements, satisfaire la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, 1 Jean 2,16. Les vêtements, donnés pour couvrir, ont maintenant besoin d'une couverture pour leur excès honteux, et ce qui devrait rappeler aux hommes l'innocence perdue, ils en tirent orgueil et gloire. La 100e partie de ces choses coûta à l'homme la perte du paradis, et maintenant elles servent de récréation agréable, oui, de gaspillage de temps. Car de même que ce fut la faute d'Adam de chercher une satisfaction autre que celle que Dieu avait ordonnée, de même c'est l'exercice, le plaisir et la perfection de l'époque de passer la plus grande portion de son temps dans des vanités si éloignées de la fin de leur création, à savoir une vie divine, qu'elles la détruisent. 3. Si les plaisirs de cet âge étaient vrais et solides, Adam et Ève auraient été malheureux dans leur innocence, eux qui ne les connaissaient pas. Mais de même que leur bonheur fut jadis de ne les connaître en aucune mesure, de même le bonheur de ceux qui connaissent vraiment Christ est d'être, par sa puissance éternelle, rachetés et élevés à l'amour de l'immortalité. Cela demeure un mystère pour ceux qui vivent et se complaisent dans leurs ornements recherchés, leurs vêtements riches et changeants, la recherche de l'élégance, l'invention et l'imitation des modes, les atours coûteux, la démarche affectée marcher d'un pas maniéré, les regards lubriques, les romans, les spectacles, les fêtes, les bals, les banquets et la conduite du même genre tant désirés. Car de même que ces choses n'auraient jamais existé si l'homme était demeuré auprès de son Créateur et avait consacré tout l'exercice de son esprit aux nobles fins de sa création, de même il est certain que l'usage de ces vanités n'est pas seulement ainsi, que les hommes et les femmes ignorent encore leur potentiel véritable repos et plaisir, mais qu'il entrave et empêche grandement le recueillement de leur esprit et leur recherche sérieuse des choses éternelles. Ah, qu'il y a tant de bruit, d'encombrement, d'invention, de va-et-vient, de curiosité et d'application, de peines et de dépenses immenses de temps et de biens pour plaire et gratifier la pauvre vanité mortelle, et pourtant l'âme, l'image même de la divinité, reçoit si peu d'attention. Quoi ? Oh, quels exemples plus frappants et quels signes plus manifestes peut-on donner que c'est le corps, l'essence, l'enveloppe, un peu de chair et d'os couverts de peau, les jouets, les folies et les vanités même de cette vie mortelle et de ce monde périssable qui leur plaisent, qui les séduisent, qui les captivent, auxquels ils s'attachent, et auxquels ils ne pensent jamais donner trop de temps, d'amour ou d'argent. 4. Ainsi leur esprit est-il occupé, et ils sont si vains dans leurs imaginations et si obscurs dans leur intelligence qu'ils les croient non seulement innocentes, mais se persuadent qu'ils sont de bons chrétiens pendant tout ce temps, et les reprendre est pire que l'hérésie, Luc 8, 14, Proverbes 30, 10, 17, 12, 1, 15, 14, Hébreux 58, 1, 10. Ainsi restent-ils, étrangers à la vie cachée, et par ces choses ils sont détournés de tout examen sérieux d'eux-mêmes, Jer 14, 19, 21. Ces soi-disant chrétiens se contentent d'un petit bavardage récité par cœur et d'un zèle forcé d'une demi-heure de discours dans les mots d'autrui le sermon hebdomadaire de leur secte, qui ne produit rien de différent dans leur conduit, Esdras 33, 32, Matthieu 6, 7, les paroles marmonnées et lues n'étant pas davantage leur état, ou du moins leur intention comme leurs œuvres le montrent, que ne l'était celle du jeune homme de l'Évangile qui disait qu'il irait et n'y alla pas. Mais hélas, pourquoi ? Oh, il y a d'autres invités, lesquels Pharamon, Cléopâtre, Cassandre, Clélie, une pièce, un bal, un jardin de printemps, le parc, le galant, la bourse, en un mot, le monde. Cela demeure, cela appelle, cela font signe, et ils les suivent, et ce sont leurs compagnons les plus familiers. Ainsi leur cœur est-il captivé loin de l'exercice divin, et des affaires extérieures qui leur seraient utiles ou profiteraient à des voisins dans le besoin ? Au lieu de cela, ils se remplissent l'esprit des idées reçues de ces jouets et folies dans leurs esprits légers et sans consistance. Et si en toute chose, ils ne peuvent les pratiquer faute de moyens, du moins autant que possible, les idolâtrer s'y complaire et consentir volontiers à ce que leurs pensées s'y précipitent. Tout cela dispose fort mal les esprits et distrait les âmes des gens de la vie divine et du principe du Saint Jésus. Mais comme on l'a souvent dit, surtout les esprits des plus jeunes, pour qui de telles distractions gèrent de cinq, leur inclination se voyant offrir ce qui leur convient si bien, qu'ils s'enflammant à plus de vanité qu'ils n'y avaient jamais pensé auparavant, sont incomparablement plus chers que tout ce qu'on peut dire de la crainte de Dieu, d'une vie retirée, des récompenses éternelles et de joie inexprimable. Et si vains, si aveugles et si insensibles sont les hommes et les femmes à ce qui fait véritablement un disciple du Christ, Rome 13, 11, 12, Matt 15, 7, 14. Oh, qu'ils méditent ces choses, qu'ils s'en gardent, qu'ils sortent de toutes ces vanités en vue de la venue du Seigneur, de peur d'être sans préparation, et qu'occupés par d'autres invités, ils n'entrent pas dans son repos éternel. 5. Ce qui manifeste encore l'illégalité de ces innombrables modes et divertissements, c'est qu'ils sont soit les inventions d'esprits vains, oisifs et lubriques, pour satisfaire leur propre sensualité et susciter chez autrui la même curiosité coupable afin de les imiter, par quoi l'on ne promeut que la convoitie et la folie, soit les artifices d'esprits nécessiteux et appauvris, qui en font le moyen le plus proche de leur revenu. Sous l'un comme sous l'autre aspect, ils doivent être détestés, car le premier autorise une impiété manifeste, et le second approuve un misérable moyen de subsistance, et par conséquent détourne d'occupations plus légitimes, plus utiles et plus nécessaires. Que ces personnes soient à la fois les inventeurs et les acteurs de toutes ces folies, cela ne doit pas être difficile à démontrer, car s'il était possible que quelqu'un nous apportât la ceinture du père Adam et le tablier de la mère Ève, quelle moquerie, quelle raillerie, quel sarcasme sur leurs modes grossières n'y aurait-il pas ? Assurément, leurs tailleurs trouveraient bien peu d'acheteurs intéressés, quoique nous lisions que c'était Dieu lui-même qui leur fit des tuniques de peau, Gênesis 3, 21. On peut demander la même chose de toutes les autres vanités, à propos des saints hommes et des saintes femmes à travers toutes les générations des Écritures. Combien de morceaux de ruban, et quelles plumes, bandes de dentelles et autres choses semblables Adam et Ève portaient-ils au paradis, ou hors du paradis, quelles riches broderies soient point, etc., avaient Abel, Enoch, Noé et le bon vieil Abraham. Ève, Sarah, Suzanne, Élisabeth et la Vierge Marie avaient-elles l'habitude de se boucler les cheveux, de se poudrer, de se coller des mouches, de se farder, de porter des perruques ou des couleurs étranges, des points riches, des garnitures, des robes bordées de dentelles, des jupons brodés, des chaussures à claquettes lacées de soie ou de dentelles d'argent, et découpées comme des pattes de pigeon avec plusieurs zones, sinon des morceaux de ruban. À combien de pièces Jésus-Christ et ses apôtres assistaient-ils pour leur plaisir et leur divertissement ? Quels poètes, romans, comédies et autres semblables les apôtres et les saints ont-ils composés ou utilisés pour passer le temps ? Je sais qu'ils s'efforçaient tous d'économiser leur temps, d'éviter les paroles insensées, les plaisanteries vaines, les bavardages profanes et les histoires fabuleuses. F5 1-5, 15-16, 2-team 2-16, 22, mat 25-13, fil 2-12-13, col 3-1-2-3-5, comme ce qui mène à l'impiété. Et plutôt de veiller, de travailler à leur salut avec crainte et tremblement, de fuir les convoitises folles et juvéniles, et de poursuivre la justice, la paix, la bonté, l'amour, la charité, et d'avoir les yeux sur les choses d'en haut comme ils voulaient l'honneur, la gloire, l'immortalité et la vie éternelle. 6. Mais si l'on me demandait, d'où viennent-elles donc, je pourrais répondre promptement des païens qui ne connaissaient pas Dieu. Car certains parmi eux détestaient ces vanités, comme on le montrera. Elles étaient les plaisirs d'un sardanapale efféminé faiblesse chez les hommes et dépendant au plaisir, d'un miracle fantasque, d'un Aristophane comique, d'un Charaxu prodigue, d'un Aristippe voluptueux. Et les pratiques de femmes telles que l'infâme Clytemnestre, Jézabel la fardée, Campaspe la lascive, Postumia l'impudique, Laïs la corinthienne si coûteuse, la très impudente Flore, Cléopâtre l'égyptienne dévergondée, et la très insatiable Messaline. Ces personnes, dont la mémoire a empesté tous les âges et qui portent avec elles une pourriture perpétuelle, celle-ci, et non les hommes et les femmes d'autrefois qui se renonçaient eux-mêmes, s'adonnaient à de tels divertissements et vains plaisirs. Non, les plus sobres des païens eux-mêmes, par un principe de grande vertu, comme tous l'avouent, détestaient les mêmes folies et pratiques dissolues. On n'en trouve aucune chez Platon, ni dans les œuvres de Sénèque, Pythagore, Socrate, Phocion, Zénon, etc., ne s'accoutumaient pas à ces amusements. La vertueuse Pénélope, la chaste Lucrèce et la sérieuse Cornélie, avec beaucoup d'autres, trouvaient assez d'occupations auprès de leurs enfants, serviteurs et voisins. Elles, quoique nobles, après leur dévotion, prenaient surtout plaisir à filer, tisser, jardiner, faire de la couture et autres devoirs domestiques semblables, et à des divertissements louables, elles qui, bien qu'appelées païennes, exprimaient dans toutes leurs actions bien plus de christianisme que ne le font les gens sans frein et insensés de cet âge, malgré qu'on les appelle chrétiens. Mais surtout, vous, marchands de spectacle, d'où croyez-vous que viennent vos comédies si passionnément aimées? Car il n'est pas de divertissement plus destructeur, ni plus estimé et assidûme fréquenté. Eh bien, je vais vous le dire, leur arrière-grand-père était un païen, et pas des meilleurs, il s'appelait Épicharme. Il est vrai qu'on l'appelle philosophe, ou ami de la sagesse, mais il ne l'était que de nom, et pas davantage en réalité que les comédiens de ce temps ne sont de vrais chrétiens. Suida, historien grec, rapporte de lui qu'il fut le premier à inventer les comédies, et avec l'aide d'un certain Formus, il composa aussi 50 fables. Mais connaissez-vous son pays, et la raison de son invention? Son pays était Syracuse, principale ville de Sicile, célèbre par l'infamie de nombreux tyrans, et pour plaire et gratifier les convoitises de certains d'entre eux, il mit son esprit à l'œuvre. Ne considérez-vous pas là une mauvaise origine? Et est-ce moindre chez quiconque de les imiter ou de les justifier, puisque les païens les plus sobres les ont eux-mêmes condamnés? Non, n'est-ce pas une abomination que ceux qui se disent chrétiens imitent et justifient de semblables inventions? Les tragédies mélancoliques n'eurent pas de meilleur père, à savoir un certain Thespis, poète athénien, à qui l'on attribue aussi l'origine de cette coutume impudente de se peindre le visage, et de la contrefaçon, ou représentation d'autres personnes par changement d'habit, d'humeur, etc., choses qui sont maintenant si fort en usage et en réputation parmi les grands de ce temps. Onzi ce poète amoureux, qu'une passion d'amour désordonnée transporta le premier à ses ravissements poétiques d'admiration, en vérité une effémination sordide faiblesse chez les hommes et dépendante au plaisir, sinon une idolâtrie. On l'appelle Alcman ou Alcina, un Lydien, lui, étant éperdument amoureux d'une jeune femme de son pays, passe pour avoir été le premier à donner au monde le spectacle de cette sorte de folie, à savoir les récits et vers d'amour, qui ont été si diligemment imités par presque toutes les nations depuis. 7. Objection 2. Je sais que certains diront, mais nous avons beaucoup de comédies et de tragédies, sonnets, refrains, etc., pour combattre le vice, et par lesquels nous apprenons bien des choses louables. Bien que cette excuse soit honteuse, pourtant beaucoup s'en sont servis, faute de honte ou d'intelligence ou des deux. Or, je confesse volontiers que chez les païens cela fut, après les leçons plus graves et morales de leurs philosophes, le remède suivant contre les vices communs, et j'en citerai deux, Euripide, que Suidas appelle un tragédien savant, et Eupolie, que le même historien appelle un poète comique. Le premier était un homme si chaste, et donc si différent de ceux de nos jours, qu'on l'appelait un ennemi des femmes, c'est-à-dire seulement des femmes sans retenue, car il fut marié deux fois, l'autre, il le caractérise comme un censeur très sévère des fautes. D'où je conclus que leur dessein n'était pas de nourrir les imaginations oisives et paresseuses des gens, ni seulement de gagner de l'argent. Mais puisque, par des moyens de bon sens relâchés, le peuple avait été débauché, leur travail était alors de le ramener, en rendant le vice ridicule et en tournant le bon sens contre la méchanceté. Et cela paraît juste, d'après le récit selon lequel Euripide aurait été mis en pièces par des femmes dissolues, ce qui sans doute fut parce qu'il s'écriait contre leur impudence, et l'autre, ayant été tué dans la bataille entre Athéniens et Lacédémoniens, fut en regretté qu'une loi ultérieure interdit à de tels poètes de porter les armes, sans doute parce qu'en le perdant, il perdait un convainqueur du vice. Le but des comiques, et tragiques approuvés de ce temps-là, était seulement de réformer le peuple en rendant le péché odieux. Il le faisait non pas tant par une voie rationnelle et argumentative, la voie ordinaire des philosophes, mais en employant des railleries mordantes, des remarques sévères, et en montrant leurs péchés vicieux comme honteux, ridicules et détestables, afin que par souci de réputation, les gens cherchent à n'en pas être coupables, ce qui pour moi n'est qu'un peu plus doux que le fouet ou la prison. Maintenant, si vous qui plaidez pour ces spectacles consentez à être tenus pour païens, et même parmi les plus vicieux et les plus méchants, qui préféreraient être raillés plutôt que raisonnés hors de leurs péchés, nous vous accorderons que de telles comédies et tragédies peuvent être utiles, mais si c'est le cas, alors honte. N'abusez pas si effrontément du nom de Jésus-Christ en vous appelant chrétien, vous dont les convoitises sont si fortes que vous êtes forcés d'employer les moyens bas des païens pour les repousser et vous détourner du mal, et non par amour de la vertu, mais par crainte, honte ou réputation. Est-ce là votre amour pour Jésus, votre révérence pour les Écritures, qui par la foi peuvent rendre l'homme de Dieu accompli? Tout votre discours sur les ordonnances, les prières, les sacrements, le christianisme et autres choses semblables en est-il venu à ceci, qu'à la fin vous devez vous appuyer sur de tels instructeurs, permis par les païens sobres pour ramener les plus vicieux du peuple qui se trouvait parmi eux, et encore, comptez-vous sur des remèdes dont rien n'est plus bas, hormis le châtiment corporel? Nos pièces, films, programmes télé, vidéos et musiques ne prétendent même plus défendre le bien contre le mal. Ils sont pornographiques, violents, orientés drogue, grossiers, pleins des comportements humains les plus vils. On repousse sans cesse les limites afin d'être sensationnel, d'attirer la publicité et de créer la controverse, ce qui incite encore davantage les gens à regarder. Plus nous regardons ce mal, plus il paraît normal, nous encourageant à de nouvelles dépravations. Toute notre société s'est fortement dégradée depuis l'écriture de Paine. Les comédies sont considérées par la société comme les moins nocives, mais regardez de près ce à quoi vous riez, et vous constaterez que vous êtes désensibilisé au mal même dans les comédies. Ce qui est drôle est généralement grossier, ou vulgaire, ou à connotation sexuelle, ou critique envers quelqu'un, ou de la pure sottise, ou quelque chose de stupide, encore de la sottise, ou abusif envers autrui, quelque chose qui rabaisse l'humanité de l'homme, etc. Plus vous en riez, plus vous l'acceptez et même devenez comme ce que vous trouvez drôle. Éloignez-vous des médias pendant un an, et vous serez choqué de ce que vous acceptiez et appréciez autrefois. Mais l'immense majorité des gens n'envisagerait jamais de renoncer à leur télévision, bien qu'elle leur coûte typiquement 100 dollars par mois pour le câble, et qu'elle soit le plus grand gaspillage de temps de notre culture. Faites grand cas de votre temps, vous vous souciez beaucoup d'épargner et de préparer votre retraite, mais faites-vous de votre mieux pour préparer votre vie après la terre, qui sera éternelle. 8. C'est si éloigné du christianisme que beaucoup de païens plus nobles, hommes et femmes, étaient mieux instruits et mieux disposés, ils avaient découvert des contemplations plus célestes et des sujets d'une nature éternelle sur lesquels méditer. Non, ils surpassaient à ce point les chrétiens de ces temps, qu'ils n'étaient pas seulement exemplaires par leur entretien grave et sobre, mais, pour le bien public, les Athéniens instituèrent les gynasosmi, ou 20 hommes chargés d'observer l'habillement et la conduite du peuple, et si l'on en trouvait d'impudiques et se conduisant avec relâchement, ils avaient pleine autorité pour les punir. Mais les choses ont changé, il est maintenant punissable de reprendre de telles personnes, oui, c'est le comble de l'insolence et de l'injure. Non, certains sont devenus si effrontés dans leurs impiétés qu'ils se moquent des personnes religieuses, et non seulement ils manifestent, par leur propre relâchement, un grand mépris de la piété et d'une vie austère, mais encore leur extrême dédain pour cela, en le rendant ridicule par des plaisanteries comiques et injurieuses sur les scènes publiques. Que c'est dangereux, et propre à faire que la religion paraisse sans valeur aux yeux du peuple. Outre les preuves de cet âge, souvenons-nous qu'Aristophane n'eut pas de moyen plus prompt pour mettre en question la réputation de Socrate auprès du peuple, qui le révérait grandement pour sa vie et sa doctrine grave et vertueuse, que ses représentations injurieuses de lui dans une pièce, ce qui fit que la foule légère, lubrique et inconstante préféra se séparer de Socrate sérieusement plutôt que de Socrate en plaisanterie. On ne peut pas donner de meilleures raisons pour laquelle les pauvres Quakers sont l'objet d'un si grand mépris, sinon qu'ils reprennent sévèrement le péché et la vanité, et qu'ils mènent une conduite de renoncement au milieu d'une si grande intempérance en toute satisfaction mondaine. Et pourtant, pendant tout ce temps, de tels libertins peuvent fanfaronner et se gonfler d'orgueil comme des chrétiens, tout en étant contre les préceptes et les exemples, mais ils soutiennent que nous devons être fantasques, présomptueux, moroses et mélancoliques, ou alors, par conséquent, nous sommes des hérétiques, des trompeurs. Ô aveuglement, hypocrisie pharisaïque! Comme s'ils étaient aptes à juger de la religion, ou comme s'il leur était possible d'avoir vu et sentiment de la vraie religion, ou d'être réellement religieux, tandis que leur intelligence est obscurcie par le dieu des plaisirs de ce monde, et tandis que leur esprit est tellement enveloppé dans les jouissances extérieures et la variété des délices mondains. Non, au nom du Dieu éternel, vous vous moquez de lui et vous trompez vos âmes, car la colère du Tout-Puissant est contre vous tant que vous demeurez dans cet esprit et cet état. En vain tous vos bavardages et vos performances apprêtées, Dieu se rit de vous, sa colère s'enflamme à cause de ces choses. Soyez donc avertis, revenez à la tempérance et repentez-vous. 9. D'ailleurs, cette sorte de gens ne sont pas seulement méchants, dissolus et vains eux qui inventent et jouent ces choses mais, par votre grand plaisir dans de telles inventions vaines, vous encouragez les autres à en faire autant, les détournant ainsi d'occupations plus honnêtes et plus utiles. Car quelle est la raison pour laquelle la plupart des marchandises se tiennent à des prix si excessifs, sinon parce que la main d'œuvre est si chère, et pourquoi en est-il ainsi, sinon parce que tant de mains sont employées ailleurs, précisément à la vanité des vanités? Non, combien est-il commun chez ces mercenaires pourvoyeurs de la folie des gens, que lorsque leurs bourses commencent à s'alléger, ils leur présentent une mode nouvelle et prétendument plus commode, et cela peut-être avant que les habits coûteux précédents aient rendu la moitié de leurs services, lesquels doivent alors être donnés, ou coûteusement modifiés pour être à la mode. Aux folies prodigues, et pourtant si fréquentes, 10. Objection 3. Je sais que je vais rencontrer l'objection la plus plausible, celle dont on se sert pour se justifier quand on est acculé, à savoir, mais comment subsisteront ces nombreuses familles dont la subsistance dépend de ces modes et divertissements que vous dénoncez si vivement? Je réponds, c'est un mauvais argument que d'invoquer la permission de commettre le moindre mal, même si un bien peut en sortir. Si vous et eux avez fait de la méchanceté votre plaisir et votre profit, contentez-vous que cela devienne votre chagrin et votre châtiment, jusqu'à ce que le consommateur apprenne à se passer de telles vanités, et que les employés aient trouvé des occupations plus honnêtes. C'est la vanité de quelques riches qui impose tant de labeur aux petits, et le grand excès des uns occasionne le grand travail des autres. Si les hommes apprenaient à se contenter de peu de choses, de celles qui sont nécessaires et commodes l'ancienne vie chrétienne, tout pourrait être à meilleur marché, et l'on pourrait vivre pour peu. Si les propriétaires avaient moins de convoitises à satisfaire, les fermiers auraient moins de loyers à payer, et passeraient de pauvres à riches, ce qui leur permettrait de trouver pour leurs enfants des emplois plus honnêtes et domestiques que de devenir des escrocs et de vivre d'expédients, ce qui n'est qu'un mot plus élégant pour désigner leur péché. Si l'on en croit les plus avisés en matière d'agriculture, les terres sont généralement perfectibles à hauteur de 50%. Si davantage de bras étaient employés à des productions plus licites et utiles, elles seraient moins chères, et l'on pourrait en faire une plus grande vente, par quoi un bénéfice rejaillirait sur le monde en général. Au lieu de cela, le fardeau pèse plus lourdement sur la campagne laborieuse. Tant de mains et d'épaules sont employées à nourrir les convoitises des villes qu'il manque de gens pour conduire la charrue et pratiquer une agriculture utile. Si les hommes ne se croient jamais assez riches, ils sont sans cesse occupés et tourmentés, mais ceux qui peuvent prendre l'état primitif et la création de Dieu pour modèle peuvent apprendre, avec peu, à se contenter, sachant que les désirs de richesse non seulement empêchent ou détruisent la vraie foi, mais que lorsqu'ils sont satisfaits, ils ne font qu'accroître leurs pièges et leurs tourments. Ce n'est pas un mal de se repentir du mal, mais cela ne peut arriver tant que les hommes soutiennent ce dont ils devraient se repentir. C'est un mauvais argument que d'éviter la tempérance ou de justifier l'excès, sous prétexte que les acteurs et inventeurs de l'excès manqueraient de moyens de subsistance, car les nourrir, c'est entretenir l'excès au lieu de l'affamer. Que les marchands de vanité, qui ont amassé assez, se contentent de se retirer et dépensent plus honnêtement ce qu'ils ont acquis que la manière dont ils l'ont acquis. Et que ceux qui sont réellement pauvres soient plutôt aidés par la charité à trouver de meilleurs emplois. C'est plus prudent, plus chrétien, que de consommer de l'argent en jouets et folies si sottes. Des maisons de travail publiques seraient des remèdes efficaces à toutes ces appétences paresseuses et voluptueuses, avec plus de profit et une meilleure conscience. C'est pourquoi les chrétiens ne peuvent pas, nous n'osons pas, justifier notre conduite par celle du monde. Non, mais par notre simplicité et notre modération nous témoignons contre ces vanités extravagantes, et par notre vie grave et constante nous manifestons, au nom de Dieu, notre désapprobation de cette curiosité si intempérante et relâchée. Oui, nous nous refusons même ce que, autrement, nous pourrions peut-être user licitement avec une juste indifférence, sinon avec satisfaction, à cause de l'abus qui en est fait dans le public. Aujourd'hui, le commerce est dominé par des sociétés et non par des entrepreneurs individuels comme Penn l'écrit ci-dessus. Et si l'on pouvait peut-être persuader des entrepreneurs individuels de se contenter de beaucoup, de ne pas chercher toujours plus, laissant ainsi aux petits concurrents la place de croître et de prospérer eux aussi, cela est impossible avec les sociétés, car elles ont une propriété insatiable et changeante, qui achètent leurs actions en attendant de la croissance et en exigeant de la croissance. Tout le monde financier aujourd'hui est axé sur l'augmentation incessante des revenus et des profits dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse. 11. Objection 4. Je sais que quelques-uns sont prêts à objecter encore. Dieu nous a-t-il donné ses jouissances exprès pour nous condamner si nous les employons ? Réponse. Mais à ces âmes misérables, pauvres et sottes, qui préféraient accuser le Dieu très haut et très saint d'avoir inventé ou créé leur sale vanité plutôt que de manquer d'un prétexte pour justifier leur propre conduite, ne sachant comment par honte, par crainte ou par amour, les rejeter, je réponds, ce que Dieu a fait pour l'usage de l'homme était bon, et ce que le bienheureux Seigneur Jésus-Christ a permis ou prescrit, ou nous a donné dans son exemple le plus céleste, doit être observé, cru et pratiqué Luc 8, 14, 12. Mais dans tout le catalogue que les Écritures donnent de l'un et de l'autre, je n'ai jamais trouvé ces atours, ces divertissements et cette manière de vivre, si recherchés par la généralité des chrétiens de ces temps. Non, certes, Dieu a créé l'homme comme une créature sainte, sage, sobre, grave et raisonnable, capable de se gouverner lui-même et de gouverner le monde. Mais la divinité était alors le grand objet de sa raison et de son plaisir. Toutes les jouissances extérieures données par Dieu étaient pour la nécessité, la commodité et une délectation légitime, avec cette condition encore que le Tout-Puissant devait être vu, et sensiblement goûté et révéré dans la jouissance de toutes ces choses. Mais combien les chrétiens de ces temps se sont éloignés de cette institution primitive, il n'est pas difficile de le déterminer, quoiqu'ils fassent de si bruyantes prétentions à ce très saint Jésus. Lui qui non seulement donna au monde une preuve certaine d'une heureuse restauration par sa propre venue, mais promit son assistance à tous ceux qui le suivraient dans le renoncement à soi-même et le chemin de sa sainte croix, Jean 8, 12, 15, 7, 8, 17, 20. Et c'est pourquoi il a si sévèrement commandé à tous, s'ils veulent être sauvés éternellement, rien de moins. Je pose deux questions, ainsi les esprits des hommes et des femmes qui ne sont pas profondément engagés dans tout excès et toute vanité, y sont moins engagés que ceux qui ne le connaissent que par ouï dire ou par lecture, et deux si, ainsi bannis de la présence du Seigneur par leur recherche avide des choses d'en bas, et ayant ainsi perdu le goût du plaisir divin, ne se sont-ils pas livrés à un plaisir imaginaire afin d'apaiser ou d'étouffer leur conscience, et de passer leur temps sans cette angoisse et ce trouble qui sont les conséquences du péché pour être ? Que leur propre conscience déclare la réponse à ces questions, Rome 2, 8, 9. La tentation d'Adam est représentée par le fruit d'un arbre, Gênesis 3, 6, indiquant par là la grande influence des objets extérieurs qui, lorsqu'ils surpassent en beauté, impressionnent nos sens, de sorte que, si l'esprit ne se tient pas en sentinelle constante, les choses visibles ont tant de force qu'il est difficile d'échapper à leurs pièges, Marc 13, 33, 37. Et il ne lui faudra être pris que parfois, pour qu'un voile si épais de ténèbres se jette sur l'esprit, qu'il non seulement continuera avec plaisir dans ses chaînes de convoitise et de vanité, mais qu'il censurera fièrement ceux qui refusent de leur prêter serment, plaidant fortement pour elles comme utiles et commodes. Quelles passions étranges, les objets périssables soulèvent dans ces esprits où l'on a ouvert la voie et donné accueil à la convoitise et à la vanité. Mais le Christ Jésus se manifeste en nous, et il nous a donné un goût et une connaissance de celui qui est véritable, et à tout cela une mesure de son bon esprit, suffisante s'il lui obéissait, pour racheter leurs esprits de cette captivité où ils étaient envers la convoitise et la vanité, et les délivrer entièrement de la domination de tous les objets visibles, et de tout ce qui peut satisfaire les désirs des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, 1 Jean 2, 15, 16. Par lui, ils pourraient être régénérés dans leur esprit, changés dans leurs affections, et avoir tout leur cœur tourné vers les choses d'en haut, où ni la mite ni la rouille ne peuvent jamais passer, ni entrer pour nuire ou détruire, 12. Mais c'est un signe manifeste de quel moule et de quelle fabrication sont les personnes qui pratiquent et défendent de tels honteux haillons d'Égypte comme des plaisirs. Il faut espérer qu'elles n'ont jamais connu, ou craindre qu'elles ont oublié, la vie humble, simple, douce, sainte, renonçante et exemplaire, dans laquelle l'Esprit éternel sanctifie tous les cœurs obéissants. Oui, il est hors de doute que ceux-là ont toujours été ignorants, ou bien qu'ils ont perdu de vue cette bonne terre, ce pays céleste, cet héritage béni dont ils avaient autrefois quelques faibles aperçus, Galates 5, 22-25, Éphésiens 5, 8, 11, 15, 16. Ou s'ils voulaient seulement se retirer un moment, s'asseoir, peser et considérer en eux-mêmes où ils en sont, et l'œuvre et la volonté de qui ils accomplissent. Qu'ils veuillent, une fois, croire que le diable n'a pas de stratégie plus destructrice pour leurs âmes immortelles que celle d'exercer leurs esprits aux modes folles et aux divertissements relâchés du temps. Les impiétés grandes et grossières engendrent de la détestation dans l'opinion d'un entendement sobre et réputé, Et c'est pourquoi, puisque le diable voit bien que de telles choses n'ont pas de succès auprès de beaucoup, son dessein suivant, et le plus funeste, est de trouver d'autres amusements qui aient moins l'apparence d'un tort grossier, quoique plus acceptable, parce que moins scandaleux. Ainsi le diable y ajoute plus de plaisir, exprès pour occuper et arrêter les gens loin d'une recherche et d'une enquête diligente sur ces choses qui concernent nécessairement leur paix éternelle, F6-17. Ignorant de la vie céleste, ils ne seront peut-être pas portés à la poursuivre, mais n'étant religieux que de forme, selon les traditions et les préceptes d'autrui, ils se livrent à leurs plaisirs ordinaires et n'y trouvent aucun frein, leur religion et leur conduite s'accordant pour la plupart. Ainsi un progrès dans la connaissance de Dieu, allant de grâce en grâce, croissant jusqu'à la mesure de la stature de Jésus-Christ lui-même, F4-12-13, n'est pas connu. Mais comme c'était au début à 7 ans, ainsi en est-il à 70, quoique non pas si innocent si ce n'est selon le vieux dicton, les vieillards sont deux fois des enfants. Le mystère de la piété, la vie céleste, le vrai chrétien sont autre chose. Nous concluons donc que, de même que le dessein du diable, lorsqu'il ne peut engager et entraîner dans un péché grossier, est d'occuper, de réjouir et d'attirer les esprits des hommes et des femmes par des amusements qui semblent plus innocents, afin qu'ils puissent plus aisément les assurer de ne pas s'occuper de leurs devoirs, de leur progrès et de leur obéissance au seul vrai Dieu, qui est la vie éternelle, Jean 17:3, et ainsi de détourner leurs esprits des choses célestes et éternelles. De même, ceux qui veulent être délivrés de ces pièges doivent prêter. Ainsi s'obtiendra le vrai discipulat, autrement, bien des conséquences énormes et des effets destructeurs s'en suivront. Car c'est encourager ces personnes impies à continuer et à persévérer dans le métier de nourrir les convoitises du peuple. Et ainsi cela se font participant de leur plaie, qui par un désir toujours renouvelé pour les mêmes curiosités et ce mode de dépense du temps et du bien, les incite à employer plus de temps à étudier comment abuser du temps, de peur que, par leur gêne et leur maigre allocation, ces prodigues ne se souviennent de la maison de leur père. Car quoi qu'ils en pensent de plus agréable à pas, des objets plus attirants, des divertissements plus gratifiants, des émissaires plus rusés, des sermons plus acceptables, des conférences plus insinuantes, des orateurs plus prenants, le diable rusé n'en a jamais eu pour séduire et enlacer les esprits des gens, et les détourner totalement des réflexions célestes et des méditations divines, que les atours, les sports, les pièces et les passe-temps de cet âge impie, l'école et la boutique de Satan, si raisonnablement condamnés plus haut. Chapitre XVI. Mais bien que ces divertissements de passe-temps soient destructeurs, et donc contraires à la loi de Dieu, je n'ai jamais entendu de critique au-delà d'une simple indifférence. Pourtant leur abus est si grand, leurs effets si universellement funestes comme une infection, qu'ils devraient être rejetés par tous. Ils devraient être spécialement rejetés par ceux dont la sobriété les a préservés de cet excès, ou dont le jugement, quoique même coupable, peut voir leur gaspillage de temps. Car qu'est-ce que l'indifférence, sinon ce qu'on peut faire ou ne pas faire ? Or la raison et la religion enseignent que, lorsqu'on s'y abandonne, s'en retirer devient une croix pour leurs désirs. Ainsi, ces divertissements de passe-temps dépassent la simple indifférence et deviennent une nécessité de leur vie. Cela viole la nature même des choses, et un abus complet s'y introduit, et par conséquent, ils ne doivent plus être considérés au rang des choses simplement indifférentes, mais comme illicites. Penn dit que lorsque nos plaisirs de passe-temps sont plus importants que la recherche de Dieu, ils deviennent des idoles illicites. 2. Or que tout l'échange de choses contre lesquelles j'ai si ardemment combattu soit généralement abusé par l'excès de presque tous les âges, sexes et conditions, beaucoup l'avoueront, mais d'autres les usent sans abus, ne voyant aucun mal au seul motif que d'autres en abusent et en sont ainsi lésés. Je réponds que, puisqu'ils ont reconnu l'indifférence de ces choses, et que, s'il en est ainsi, puisqu'ils reconnaissent leur grand abus, ils devraient les abandonner entièrement. Car puisqu'on peut aussi bien s'en passer que les pratiquer en tout temps, assurément on doit, par devoir, s'en passer, lorsque leur usage encourage l'excès général, et n'est qu'un excitant pour que d'autres continuent dans leur abus, parce qu'ils trouvent des personnes réputées sobres à imiter, ou qui leur donnent autrement l'exemple, Phil 3:17. Les préceptes ne sont pas à moitié aussi puissants que les exemples. Penn dit que même si vous pouvez participer sans danger au plaisir de passe-temps, votre participation vaut approbation pour ceux qui se livrent à l'excès et se nuisent à eux-mêmes, par conséquent nous devrions nous en abstenir par égard pour le bien d'autrui. 3. Quiconque prétend être sérieux doit s'examiner pour voir s'il n'a pas été trop empressé à favoriser les excès. On ne saurait jamais sortir trop vite de ces inconvénients que, par son exemple passé, on a encouragé chez d'autres afin que par un nouvel exemple, on mette un frein opportun à l'intempérance d'autrui. Un parent sage retire toujours ses objets, quelque innocents qu'ils soient en eux-mêmes, qui ont trop d'emprise sur les sens faibles de ses enfants, afin qu'il en soit sevré. Et il est aussi fréquent chez les hommes de courber un bâton tordu fortement dans le sens opposé, afin de le redresser enfin. Ceux qui ont plus de sobriété que les autres ne doivent pas oublier leur intendance, mais exercer ce don de Dieu pour la protection de leurs voisins. C'était Caïn meurtrier qui demanda grossièrement au Seigneur « Suis-je le gardien de mon frère ?» Gênesis 4:9. Car tout homme y est nécessairement obligé, et doit donc être assez sage pour se refuser l'usage de telles jouissances indifférentes, qui ne peuvent être utilisées par lui sans un encouragement trop manifeste à la folie de son voisin. 4. Dieu a suffisamment incité les hommes à ce qui est dit, car dans le cas du serpent d'airain, 2 Rois 18:3-4, qui était une institution céleste et une figure du Christ, il ordonna, avec grande indignation, qu'on le brisa en morceaux parce qu'on s'y attachait trop et qu'on le chérissait avec idolâtrie. Oui, les bosquets même, quelque agréables par leur situation, beaux par leurs allées et leurs arbres, devaient être abattus, et pourquoi? Uniquement parce qu'ils avaient été détournés à des usages idolâtres. Et qu'est-ce qu'une idole, sinon ce à quoi l'esprit attribue une estimation ou une valeur excessive? Nul ne peut tirer autant de profit d'une chose indifférente en l'utilisant que d'autres en n'usant pas de cette liberté abusée. 5. Si ces choses étaient commodes en elles-mêmes, ce qui est un pas plus près de la nécessité que la simple indifférence, pourtant, lorsqu'elles deviennent, par les circonstances, préjudiciables, cette commodité même doit être abandonnée. À plus forte raison, ce qui n'est qu'indifférent doit être refusé. On ne doit pas peser ses satisfactions privées plus qu'un bien public, ni se complaire dans un usage trop libre des choses indifférentes au prix de nuire au public, comme c'est certainement le cas, puisque leur usage, si ce n'est pire, devient un mauvais exemple pour autrui et engendre dans les esprits une impatience d'avoir la même chose. Il est donc raisonnable et obligatoire pour tous de ne rendre nécessaire que les choses qui tendent à la vie et à la piété, 2 Pierre 1:3, et d'employer leur liberté avec le plus grand avantage pour leurs voisins. Il y a donc ici une double obligation, l'une, de ne pas être un mauvais exemple dans l'usage de ces choses, que, quoi qu'ils puissent les utiliser, ils ne peuvent le faire sans donner trop d'encouragement à l'abus et à la vanité excessive de leurs voisins. L'autre obligation est qu'ils doivent aller jusqu'à céder par considération pour ces personnes pieuses qui sont offensées par ces modes et cette conduite, en les rejetant. Rome 14, 1-23. Peine dit que nous devrions rejeter les passe-temps, 1 pour le bien de ceux qui se nuisent par leurs excès, et 2 afin de ne pas offenser les personnes des sectes fondamentalistes qui les considèrent comme des péchés. 6. Or ceux qui, malgré ce que j'ai allégué, persisteront néanmoins, qu'est sinon qu'ils se sont tellement enchevêtrés, eux et leurs affections, en ces choses, qu'il est presque impossible de les réformer, et que, pour toutes leurs nombreuses déclarations solennelles contre leur attachement à de telles folies, ils les aiment en réalité plus que le Christ et sa croix. Ceux-là ne peuvent rechercher le bien d'autrui, qui ont si peu d'égard pour le leur, car après une considération sérieuse, quelle vanité, quel orgueil, quelle oisiveté, quelles dépenses de temps et de biens ont été et sont encore. Combien de personnes débauchées de leur première sobriété, et de femmes détournées de leur douceur naturelle, et de leur innocence vers des pratiques légères, volages, lascives, et souvent plus énormes encore. Combien de fortunes considérables ont été ruinées par d'innombrables dettes, combien de chastetés prises au piège par d'exécrables intrigues voluptueuses, combien de santé juvénile rattrapée par l'attaque précipitée de maladies contre nature, et le reste de leurs jours passés sur un chevalet des vices qu'ils se sont procurés, devenant ainsi esclaves des effets impitoyables mais nécessaires de leur propre plaisir déréglé. Dans cette agonie, ils jurent la plus grande tempérance, mais ils n'en sont pas plus tôt sortis qu'ils retombent dans leurs vices. Lame 4:5, Job 21:13-14, Psa 55:23-37-10, Éclut 8:12, Psa 37:1-2, Pro 2:22-7. Que ces choses soient ainsi, et presque d'innombrables autres, je suis persuadé qu'aucune personne franche ayant quelque expérience ne le niera. Comment donc, après une réflexion sérieuse, ceux qui prétendent avoir une conscience, ou la crainte de Dieu Tout-Puissant, peuvent-ils plus longtemps continuer dans le costume, la livrée et la conduite de ceux dont toute la vie tente à peu d'autres choses que ce que j'ai répété, et encore moins se joindre à eux dans leur excès abominable, je laisse au juste principe en eux-mêmes le soin d'en juger. Gère 16, 5-9. Non, assurément, ce n'est pas obéir à la voix de Dieu, qui dans tous les âges a crié hautement à tous, sortez de quoi des voix, des modes, des fréquentations et de l'esprit de Babylone, Isa 3, 13, 16, Gère 1, 16, 15, 6, 7, Amos 6, 3, 7. Qu'est-ce que c'est? La grande cité de toutes ces pratiques vaines, folles, immorales, superflues et méchantes, contre lesquelles les Écritures prononcent les jugements les plus terribles, attribuant toute l'intempérance des hommes et des femmes à la coupe de méchanceté qu'elle leur a fait boire, eux qui sont indifférents aux choses de la méchanceté, comme s'il le fallait. Et pour témoignage, Jean, dans son Apocalypse, dit en la décrivant que autant elle s'est glorifiée et a vécu dans les délices, autant il faut lui donner tourment et douleur. Et les rois de la terre, qui ont vécu dans les délices avec elle, la pleureront et se lamenteront, et les marchands de la terre pleureront et se lamenteront sur elle, car plus personne n'achète sa marchandise. La marchandise d'or, d'argent, de pierres précieuses et de perles, de fin lin, de pourpre, de soie et d'écarlate, de bois de souille, et toutes sortes d'objets d'ivoire, et toutes sortes d'objets en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, et la cannelle, les aromates, les parfums, les ongles, l'encens, le vin, l'huile, la fine farine, le frôme, les bêtes, les brebis, les chevaux, les chars, les esclaves et les âmes d'hommes, Apoc 18, 7, 9, 11, 13. Voyez le caractère et le jugement du luxe. Et bien que je sache qu'il y a là un sens spirituel plus étendu que le sens littéral, il y en a assez pour montrer la pompe, l'abondance, la plénitude, l'oisiveté, la facilité, l'immoralité, la vanité, la convoitise et l'excès du luxe qui y règne. Mais au jour terrible qui ira encore à son marché, qui ira à ses spectacles, qui suivra alors ses modes, et qui fera commerce de ses délicates inventions, personne, car elle sera jugée. Aucun plaidoyer ne l'excusera ni ne la délivrera de la colère du juge, car fort est le Seigneur qui l'accomplira, Apoc 18:8. Si ces raisons raisonnables ne prévalent pas, je mettrai pourtant en garde ces gens en répétant une partie du misérable arrêt de Babylone. Considérez, mes amis, des choses plus célestes. Hâtez-vous d'obéir à cet esprit juste au-dedans de vous, qui voudrait vous exercer et vous réjouir en ce qui est éternel. Sinon, avec Babylone, mère de la convoitie et de la vanité, les fruits après lesquels vos âmes soupirent s'éloigneront de vous, et toutes les choses délicates et magnifiques s'éloigneront de vous, et vous ne les trouverez plus. Ô riche homme qui ignore Lazare, plus jamais, Apoc 18:14. Amassez donc vos trésors dans le ciel, ô habitants de la terre, où rien ne peut les percer pour leur nuire, Luc 12:33-34, mais où le temps sera bientôt englouti par l'éternité. 8. Mais mes arguments contre ces choses ne s'arrêtent pas ici, car le contraire conduit surtout au bien, à savoir la tempérance dans la nourriture, la simplicité dans l'habillement avec un esprit doux, pudique et tranquille, et une conduite qui n'exprime cela qu'en toute honnêteté pieuse, comme l'apôtre l'a dit. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais seulement celle qui est bonne pour l'édification, afin qu'elle communique la grâce à ceux qui l'entendent, ni impureté, ni parole folle, ni plaisanterie, mais plutôt des actions de grâce. Et si les hommes et les femmes étaient ainsi parés de cette manière véritablement chrétienne, l'impudence recevrait bientôt un frein, et la convoitise, l'orgueil, la vanité et l'immoralité trouveraient une réprimande, 2 Pierre 2, 12, Pro 31, 23-31, Jacques 2, 2-9. Il ne pourrait pas attaquer une chasteté si universelle ni affronter une austérité si pieuse. La vertu serait en crédit, et le vice effrayé et honteux, et l'excès n'oserait pas montrer son visage. Il n'y aurait plus de gloutonnerie ni de luxe tapageur dans l'habillement, plus de titres flatteurs, ni de vie voluptueuse, de Pierre 3, 11. Alors l'innocence et la simplicité primitive reviendraient, psaume 26, 6, et cette vie simple, franche et inoffensive serait restaurée, celle de ne pas trop se soucier de ce que nous mangerons, boirons ou revêtirons, Luc 12, 22, 30, comme le Christ nous dit que faisaient les païens, et comme nous savons que cet âge le fait chaque jour, sous tous ses discours de religion. Mais vivre comme les anciens qui, avec un soin modéré pour les nécessités et les commodités de la vie, se consacraient aux intérêts d'un royaume céleste, et s'appliquaient davantage à croître en justice qu'à accroître leur richesse, car ils amassaient leurs trésors dans le ciel, Matt 25, 21, et enduraient la tribulation pour un héritage qui ne peut être ôté. 9. Mais la tempérance que je préconise n'est pas seulement bonne religieusement, elle l'est aussi politiquement. Il est de l'intérêt d'un bon gouvernement de réprimer et de blâmer les excès, elle prévient bien des maux. Le luxe engendre l'efféminement des hommes rendus mous et faibles, livrés au plaisir, la paresse, la pauvreté et la misère, Pro 10, 4, Éclidis 16, 18, mais la tempérance conserve le pays. Elle tient à l'écart les vanités étrangères et améliore nos propres marchandises. Aujourd'hui nous sommes leurs débiteurs, alors ils seraient nos débiteurs pour nos manufactures nationales. Par ce moyen, ceux qui, par leur excès et non par charité, ont lourdement grevé leurs biens, pourront en peu de temps être en état de les dégager de ces charges qui, autrement, comme des mythes, dévorent bientôt de riches revenus. Cela aide les personnes de condition humble à améliorer leur petit capital, afin qu'elles ne dépensent pas leurs gains chèrement acquis et leurs salaires durement gagnés en vêtements superflus, folles fêtes de mai, pièces, danses, spectacles, tavernes, cabarets et autres folies et intempérances, dont ce pays est plus infesté, et par lesquelles il est rendu plus ridicule que tout royaume du monde. Car aucune nation, que je sache, n'est autant infestée de charlatans trompeurs astérisques, de sauvages danseurs, de moris astérisques astérisques, de tire-laine, et de comédiens et gens de scène impies, au mépris de la religion, à la honte du gouvernement, et au prix de la grande oisiveté, dépense et débauche du peuple. Pourquoi l'esprit du Seigneur est attristé, et les jugements du Tout-Puissant sont à la porte, et la sentence prêt à être prononcée, que celui qui est injuste soit injuste encore, à Apoc 22, 11 et 12, 1. C'est pourquoi nous ne pouvons que supplier hautement la généralité de notre temps, et témoigner par notre vie et notre doctrine, contre de telles vanités et abus, afin que si possible, quelques-uns soient sevrés de leur folie et choisissent l'ancien bon chemin de tempérance, de sagesse, de gravité et de sainteté, l'unique voie pour hériter des bénédictions de paix et d'abondance ici-bas, et du bonheur éternel ensuite. Astérisque, mountebank, quelqu'un qui vend des médicaments sur la place publique, dont les guérisons ne sont que prétendues. Astérisque, astérisque, savage Maurice danser des hommes en kilt dansant sauvagement, 10. Enfin, supposons que nous n'ayons aucune des raisons précédentes pour reprendre à juste titre la pratique du pays sur ces points, qu'il nous suffise pourtant de dire que, lorsque les gens auront d'abord appris à craindre, adorer et obéir à leur créateur, à payer leurs nombreuses dettes vicieuses, à alléger et diminuer l'oppression de leurs fermiers, mais surtout, quand on aura davantage pitié des visages pâles, quand le pauvre affamé, la veuve affligée et l'orphelin sans secours, les œuvres de Dieu et vos semblables seront pourvues, alors dis-je alors, il. Mais que la sueur et le laborieux travail du laboureur, tôt et tard, froid et chaud, humide et sec, soient convertis en plaisir, aisance et passe-temps pour un petit nombre d'hommes, que le soin, la charrue, le fléau, soit dans cette sévérité continuelle imposée à 19 par du pays pour nourrir les convoitises déréglées et les appétits délicats de la 20e, cela est si éloigné de l'ordonnance du grand gouverneur du monde et Dieu des esprits de toute chair, que d'imaginer une si horrible injustice comme effet de ses déterminations, et non de. Et d'autre part, ce serait ne mériter aucune pitié, aucune aide, aucun secours de Dieu Tout-Puissant, que des gens continuent cette dépense en vanité et en plaisir, tandis que les grandes nécessités de tels objets restent sans réponse, surtout puisque Dieu n'a fait les fils des hommes que des intendants des besoins pressants et du soulagement les uns des autres. Oui, l'ordre en est si strict que, pour l'omission de ces choses, nous trouvons cette terrible sentence en partie valable, « Retirez-vous de moi, maudit, dans le feu éternel, etc. » Matt 25, 41-46 « Et au contraire, visiter les malades, voir les prisonniers secourir les nécessiteux, etc. » sont de si excellentes dispositions selon le compte du Christ que sur cela, il prononcera cela bienheureux, disant « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume préparé pour vous, etc. » Matt 25, 34-40 Ainsi les grands ne doivent pas, comme le Leviathan dans l'abîme, dévorer les petits, et encore moins faire un jeu de la vie et du travail des plus petits, pour satisfaire leur sens déréglé. 11. J'offre donc humblement une adresse à la sérieuse considération des magistrats civils. Si l'argent qui est dépensé dans chaque paroisse en telle mode vaine que le port de dentelles, bijoux, broderies, rubans inutiles, garnitures, mobilier coûteux et domestiques, avec ce qui est communément consommé dans les tavernes, festins, jeux d'argent, etc., pouvait être rassemblé en un fonds public, ou en quelque chose en lieu et place de cette dépense extravagante et stérile, il pourrait y avoir réparation pour les fermiers brisés, des maisons de travail pour les valides, et des hospices pour les vieillards et les infirmes. Alors nous n'aurions pas de mendiants dans le pays, le cri de la veuve et de l'orphelin cesserait, et une assistance charitable pourrait aisément être accordée pour la rançon de pauvres captifs et le soulagement de ces protestants affligés qui souffrent les misères de la persécution dans d'autres pays. Non, les besoins de l'échiquier, en cas d'urgence légitime, pourraient être pourvus par une telle banque. Ce sacrifice et ce service plairaient au Dieu juste et miséricordieux, ce serait un noble exemple de gravité et de tempérance pour les États étrangers, et un bénéfice indicible pour nous-mêmes chez nous, hélas. Pourquoi les hommes auraient-ils besoin d'être persuadés de ce vers quoi leur propre bonheur les conduit si nécessairement, si ces virtuoses de notre temps avaient seulement le sens de la générosité du païen Caton? Ils préféreraient se refuser leurs appétits charnels plutôt que de laisser de si nobles entreprises inachevées. Mais qu'ils mangent, boivent, jouent, parient et dissipent en divertissement leur santé, leurs biens, et surtout leur temps précieux et irrévocable, qui devrait être consacré au Seigneur comme introduction nécessaire à une bienheureuse éternité, et au regard duquel, s'ils le savaient seulement, aucun réconfort mondain ne pourrait soutenir la comparaison, je dis que d'être continuellement occupé à ces choses basses et misérables, c'est s'exposer à être jugé par les païens au jour de Dieu, autant que les préceptes et les exemples chrétiens les condamnent. Et leur condamnation finale en sera d'autant plus étonnante que cette vanité et cet excès se pratiquent sous la profession de la religion de Jésus qui renonce à soi-même, dont la vie et la doctrine sont un reproche perpétuel pour la plupart des chrétiens. Car lui était humble, mais eux sont orgueilleux, lui pardonnaient, eux sont vindicatifs, lui doux, eux féroces, lui simples, eux clinquants, lui abstine, eux luxurieux, lui chaste, eux sans frein, lui pèlerins sur la terre, eux citoyens du monde. En vérité, il naquit pauvre, peu servi, et fut élevé dans l'obscurité, il vécut méprisé, et mourut haï des hommes de sa propre nation. Ô vous prétendus disciples de ce Jésus crucifié, examinez-vous, éprouvez-vous, ne vous connaissez-vous pas vous-même, s'il n'habite pas, s'il ne règne pas en vous, vous êtes réprouvés, 2 Cor 13-5. Ne vous trompez pas, car on ne se moque pas de Dieu, ce que vous semez, vous le moissonnerez, Gal 6, 7-8 à la fin, avec des repentirs forcés astérisque ce que vous semez, vous le moissonnerez au jour de Dieu. Je vous conjure de m'écouter et de vous souvenir que le salut de Dieu vous a été proposé et offert. Comme vous semez, vous récoltez si vous êtes ennemi de la croix du Christ, et vous l'êtes si vous ne voulez pas la porter, mais faites comme bon vous semble, et non comme vous devez si vous êtes incirconcis de cœur et d'oreille, et vous l'êtes si vous ne voulez pas entendre et ouvrir à celui qui frappe à la porte au-dedans. Et si vous résistez et éteignez en vous l'esprit qui lutte avec vous pour vous ramener à Dieu, ce que vous faites certainement lorsque vous vous rebellez contre ses motions, ses reproches et ses instructions, alors vous semez pour la chair à feindre. Mais si vous portez chaque jour la sainte croix du Christ et semez pour l'esprit, si vous écoutez la lumière et la grâce qui viennent par Jésus, et qu'il a donné à tous les hommes pour le salut, et si vous y conformez vos pensées, paroles et actions, elle qui conduit en sait ce qu'il aime à renoncer à toute impiété aux convoitises du monde, et à vivre sobrement, justement et pieusement dans ce présent monde mauvais, alors vous pourrez avec confiance attendre la bienheureuse espérance et l'heureuse venue, et l'apparition glorieuse du grand Dieu et de notre. Qu'il en soit ainsi, ô vous chrétiens, et échappez à la colère à venir, pourquoi mourrez-vous? Que le temps passé suffise, souvenez-vous que sans croix sans couronne. Rachetez donc le temps, car les jours sont mauvais d'Éph 5:16, et les vôtres sont bien peu nombreux, Jacques 4:14. C'est pourquoi saignez les reins de votre esprit, soyez sobres, craignez, veillez, priez et persévérez jusqu'à la fin, vous rappelant, pour votre encouragement et votre consolation, que tous ceux qui, par la patience et la pratique du bien, attendent l'immortalité, Rome 2:7, moissonneront la gloire, l'honneur et la vie éternelle dans le royaume du Père, à qui appartiennent le royaume, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Astérisque peine parle de repentir forcé dans la vie à venir pour ceux qui ne se repentent pas par la croix dans cette vie. Dieu ne force notre repentance qu'indirectement. Il nous place dans les ténèbres, sans son influence qui nous retient, de sorte que nous nous livrons aux désirs de notre cœur jusqu'au point où nous en sommes rassasiés et où ils deviennent lourds, déplaisants et finalement horriblement oppressants, si horribles que nous choisissons désespérément de nous en repentir. Alors ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront de bonne heure et avec diligence, mais ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la connaissance et n'ont pas choisi la crainte du Seigneur. Ils n'ont accepté aucun de mes conseils, ils ont méprisé toutes mes réprimandes. C'est pourquoi ils mangeront du fruit de leur propre voie et seront rassasiés de leurs propres désirs. Car le détournement de mon conseil des ignorants les fera périr, et l'insouciante sécurité des insensés les détruira. Pro 1, 28-32 de plus de la parole du Seigneur au-dedans, notre but est de tout porter, vous devez apprendre à supporter la douleur ou dans cette vie ou dans la suivante. L'enfer est beaucoup de douleur avec un amour inattendu, beaucoup de douleur pour être rendu apte à la reconstruction. Après la mort, il y a un sentiment de regret à propos de sa vie. Chacun sera connu par ce qu'il a dit et fait. Ils ressentent tous les effets de la douleur qu'ils ont causée et ensuite ils sont soulagés. En enfer, toutes les critiques envers quiconque, ou les actions causant de la douleur à quelqu'un, sont rejouées, et vous ressentez la douleur émotionnelle et ou physique que vous avez causée aux autres. Ensuite vous êtes soulagé, de sorte que la douleur n'est pas permanente. De cette manière, vous apprenez à haïr les erreurs que vous avez commises sur terre, résolu à ne jamais répéter ces comportements, et à mesure que vous apprenez à haïr le mal, vous êtes attiré vers le bien, ce qui revient à être attiré vers Dieu. Ainsi, nous apprenons de toutes nos erreurs commises sur terre. La douleur d'une blessure nettoie le mal, ainsi les coups purgent les parties intérieures, y compris le cœur de l'homme. Pro 20-30. Dieu discipline et châtie tout fils qu'il accepte, Hèbre 12-6, celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché. Afin que vous ne viviez pas le reste de votre temps dans la chair selon les convoitises des hommes, mais que vous viviez selon la volonté de Dieu. 1 Pierre 4-1-2. Non seulement la douleur est utilisée pour ôter le péché d'un homme sur la terre, la douleur est aussi utilisée pour ôter le péché d'une personne en enfer. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matt 13, 42-50. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matt 22, 13-24, 51-25-30. La fin, il existe une partie de No Cross No Crown dans laquelle Penn cite des dizaines d'anciens dirigeants et philosophes païens qui ont écrit sur la vertu. Penn espérait que la classe supérieure d'Angleterre, qui entraînait l'Angleterre sur les voies de la débauche, prêterait davantage attention aux anciens païens qu'elle n'en accordait à Pierre ou à Paul. Bien qu'intéressante d'un point de vue historique, elle est omise, avec la conviction qu'au Dieu les lecteurs sont convaincus par les écrits de Pierre, Paul, Jean, Jude, Jacques, Matthieu, Marc, Luc, George Fox, William Penn, William Dewsbury, Stephen Crisp, Margaret Fox, Francis Raugill, Edward Burroughs, Isaac Pennington et Al. Le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.